Assalamu alaikum wa alaikum salut. Merci d'avoir cliqué sur play et bienvenue dans la Tay. La Tay, ça veut dire le thé en arabe. La Tay, c'est une bande d'amis, tous descendants d'immigrés maghrébins, qui parlent de sujets qui les touchent. On est un peu une version dématérialisée des discussions que tu peux avoir avec tes amis au grec ou autour d'un bon thé le soir. La Tay, c'est des moments de discussion et de partage, sans prétention aucune et ouvert à tous. Ce n'est pas une émission historique ou documentaire, ce n'est pas un podcast formel de radio. Ce sont des petits bouts de notre vie et de notre tête qu'on aimerait partager avec vous. C'est notre manière à nous de rendre hommage à nos racines et à notre culture. Allez, venez, on vous sert un verre. L'actu du jour, c'est notre président, notre start-upper préféré. Notre...
Elle sait que je croyais que tu parlais de Bouteflika.
Not my president. Not my president.
Notre start-upper français, notre président Emmanuel Macron, a demandé pardon à la veuve de Maurice Audin, 61 ans après le meurtre de son mari. Maurice Audin, qui c'est ? C'était un homme qui avait 25 ans, qui habitait en Algérie, qui était français, donc blanc, et qui était membre du Parti communiste, et il se battait pour... Enfin, lui, il était pour l'indépendance.
C'était un intellectuel mathématicien anticolonialiste.
Exactement. Et il a été arrêté par les autorités françaises. Il a été torturé puis assassiné. Et la France n'a jamais reconnu son assassinat jusqu'à hier. Voilà, jusqu'à hier où le président est parti demander pardon et ils ont décidé d'ouvrir les archives de la guerre d'Algérie.
Une partie.
Très important. Juste une partie, donc des archives qui n'ont jamais été ouvertes. Et hier, j'étais en train de regarder la télé et j'avais entendu, enfin, il parlait de ça à la télé et il y avait un enregistrement du mec qui l'avait tué, où il disait on l'a tué au couteau pour faire croire que c'est les Arabes qui l'ont tué. Sachant qu'on est encore aux prémices du devoir de mémoire sur ce sujet-là, faut savoir que c'est Hollande qui a reconnu la torture et les massacres de Sétif.
C'est pas Chirac qui a inauguré le monument mémorial.
Parce qu'avant, c'était pas la guerre d'Algérie.
Avant ça, c'était les événements d'Algérie. C'était pas une guerre, c'était des opérations de maintien de force.
Ouais.
Donc, on a dû attendre Hollande pour reconnaître les tortures. On a dû attendre Macron pour reconnaître les tortures sur Maurice Audin. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était quoi votre opinion par rapport à ça?
Il était temps.
Vas-y.
En fait, je pense que... Enfin, comment dire? Je suis trop content pour la femme... Enfin, la veuve de ce grand homme. Je suis très content pour sa famille, ses descendants, etc. Mais pour moi, ça relève du coup de com' parce que je pense qu'à l'échelle nationale, t'auras un progrès là-dessus quand il y aura ce genre de paroles, ce genre d'avancée dans nos livres d'histoire.
Ouais.
Et que tout le monde apprendra ça parce que ça reste encore trop nié dans l'imaginaire collectif.
Ouais, moi je suis assez d'accord.
Et moi j'ai eu la chance en terminale d'avoir une prof d'histoire qui m'a enfin moi je connaissais rien à la guerre d'Algérie concrètement et vu que c'est pas mon pays et que même à l'époque je m'intéressais pas vraiment à l'histoire du Maroc. Et c'est elle en fait qui m'a appris que la guerre d'Algérie en fait en France c'était un tabou et que c'était seulement sous Hollande qu'on a reconnu publiquement et officiellement la guerre d'Algérie comme étant guerre et donc accompagnée de tortures, de souffrances.
Et donc c'est là où je te dis que je suis content pour la famille Audin, la famille concernée, mais moi et avec mon regard sur l'Algérie et sur cette histoire, etc., pour moi, c'est pas une avancée qui concerne toute cette histoire. Ce sera une avancée quand ça englobera tout et tout le regard sur tous les événements.
Et surtout, quand l'éducation nationale prendra ce chapitre au sérieux.
Exactement.
Et non pas seulement pour qu'il le met dans le livre d'histoire juste pour pas qu'il y ait
Pour le mettre. Déjà, il faut savoir que le chapitre sur la guerre d'Algérie, c'est pas un chapitre obligatoire.
Ouais.
C'est soit tu fais la guerre d'Algérie, soit tu fais
l'Inde.
Soit
tu
fais
l'Indochine mondiale. On avait le choix entre la guerre d'Algérie et la Seconde Guerre mondiale.
Vous avez fait la mémoire de la guerre d'Algérie ou la mémoire de la Seconde Guerre
mondiale.
Personne ne fait la mémoire de la guerre d'Algérie.
Moi j'ai fait la guerre d'Algérie et justement notre prof nous a parlé de Maurice Sandin, de Henri Alleg, de son livre La Question et tout. Enfin, de plein de trucs comme ça. Genre, du coup, elle était pas vraiment dans. Elle a pas caché toutes les tortures et tout. Genre, elle a pas tout nié. Genre, elle nous a montré plein de choses.
Comment dire ? Intégriste ? Non, c'est pas ça.
Très honnête.
Intègre.
J'ai fait bac L. Mais ouais, c'est vrai que nos profs, enfin nos deux profs j'imagine, étaient vraiment intègres sur ce sujet. Genre, ils nous disaient que la France était très hypocrite à ce sujet, même encore aujourd'hui, que les archives étaient encore fermées. Alors que, en vrai, on sent trop une pied noire. Mais je te jure, elle était grave.
Ça veut rien dire.
Pas
hein.
Ouais. Ouais, parce que
il y en a qui. Il y a des Arabes qui vont être profs d'histoire et qui vont te raconter ça de manière.
Whitewashé.
Exactement.
Monsieur propre.
Voilà, l'origine du prof en vrai veut absolument rien dire. Hein. Ouais. Ça dépend de la sensibilité de chacun, ça dépend de leur parcours familial aussi, puisque je pense que c'est une guerre qui a touché énormément de personnes en France, pas que des Algériens, pas que les Algériens musulmans, ça a touché aussi énormément les Français. On en connaît plein des mecs dont les grands-parents ont été emmenés de force pour combattre en Algérie, tu vois, contre leur gré aussi, des fois. Pour moi, ça devrait être obligatoire. En fait, obligatoire dans le
choix. Pas,
bon, ça devrait être. Je comprends pas comment on peut être dans un pays où il y a même pas un musée qui parle de ça, tu vois.
Ouais.
C'est très grave. C'est une grosse histoire. C'est même pas que la guerre d'Algérie, tu vois, l'histoire de la colonisation. La France, elle a encore un énorme problème avec ça. Il y a encore trop de choses à faire. Il y a encore un truc qui est énorme à faire.
Sur la colonisation, tu vois, sur le devoir de mémoire, moi je trouve que c'est. Enfin, moi je me souviens à l'époque du bac, j'étais dans la réforme, genre je le passais en première parce que j'étais en S. Et du coup, l'année juste avant, ils avaient déjà eu la réforme, mais ils avaient eu la colonisation au bac. Et du coup, ma prof, elle avait envoyé un polycopie, genre une page, hein, recto verso. Elle avait dit, ouais, ça c'est sur le chapitre de la colonisation, c'est tombé l'année dernière, ça tombera pas cette année, tu vois. Genre, ok, tu nous prépares au bac, mais genre en termes d'histoire, c'est le seul moment de toute ta scolarité où tu vas le voir, tu vois.
Ouais.
Alors que des trucs comme la Seconde Guerre mondiale, la Première, tous ces trucs-là, tu les vois un peu 3-4 fois dans ta scolarité. Moi ça m'avait choqué en tout cas.
Plus globalement, en fait, le problème des lycées et des écoles et des collèges, etc., en France, c'est qu'ils nous préparent à un examen final. Et c'est même leur but, c'est même plus, à certains profs, leur but c'est de boucler le programme. Et c'est même plus de nous inculquer un enseignement, en fait. Ils sont plus pédagogues. Et c'est un vrai problème parce que du coup, ça, pour certains qui n'ont pas envie de se cultiver d'eux-mêmes, bah, c'est des coquilles vides. Ils apprennent ça pour le bac et le lendemain, ils ont oublié.
C'est ça. Je sais pas si vous avez vu, bah, du coup, il y a une interview de Rachida qui a tourné récemment là, à l'Opéra où il disait j'ai l'impression que des fois, il y a une sorte de grosse gomme au-dessus qui vient gommer quelques éléments.
Ouais.
Et on nommait plein de choses, et en fait c'est exactement ça, tu vois. C'est que après voilà, est-ce que la France elle est prête à se retourner vers son passé et à accepter ce qu'elle a fait? Je pense que c'est vraiment notre génération qui va un peu bousculer ça, tu vois, parce qu'on a grandi dans une génération où on était tellement métissés, on est allé à l'école avec de tout, tu vois, on a rencontré des gens qui viennent de partout, on a plus ce problème en fait. Donc je pense vraiment que ça va revenir de là, et du coup très bien que j'ai parlé de Rachida, parce qu'on va faire une première petite pause pour passer une chanson que j'aime beaucoup, une chanson reprise du coup par cet homme qui nous a quittés cette semaine, qui a fait partie de la première génération de descendants d'immigrés, un homme qui a marqué la France alors qu'il n'avait même pas la nationalité. On écoute Rock El Casbah de Rachida sur la télé.
Get it boogie man. Cadillac, رعبت في السنتر فيل كانت بنا ولا حنج استنى في رأس المال.
Donc certains sont déjà dans les cahiers, d'autres sont en train de bosser, d'autres sont au taf, d'autres n'ont pas de rentrée, hein, on pense à vous les chômeurs.
Parcours subtil.
D'autres sont en train de tweeter, tu vois. Et d'autres sont encore au bled.
Les familles.
Voilà. Hein. On va pas donner d'origine parce que sinon les Maghrébins vont se vénérer.
Ils sont visés.
Non mais en vrai c'est quoi ce truc des arabes de rentrer au bled?
J'étais comme ça moi
hyper
aussi.
Tard hein.
J'étais comme ça tout. Moi c'est parce que j'étais bloquée au bled.
Oui oui ça c'est Kauter ça. Que vous
Kauter a contenu
non,
ton
non non mais en vrai tu rigoles mais moi aussi hein, quand j'avais pas la nationalité française encore c'était la galère hein, pour revenir.
Ouais,
ouais, genre, je sais pas, un passeport ou un truc qui périme et tout.
Ou alors juste la douane qui t'aime pas. Ou alors la douane, tu oublies de te tamponner un papier. Moi, j'ai failli rester bloqué en Espagne. Hein.
Ah ouais,
ouais. Et genre, vu qu'il m'aimait bien, bah, il est reparti sur le bateau et il est reparti me le tamponner sur le bateau.
Donc aujourd'hui.
Pretty privileged.
Alors, oui, c'est encore Kauter que nous avons en général.
Du coup, aujourd'hui, on va parler des vacances au bled, du retour au pays, back to Algérie, Maroc, Tunisie, ce que vous voulez. Déjà, qui est parti au bled?
Counter.
Levez la main.
Ah. Nesrine.
Amel.
Donc on est 5 sur 7 à être partis dans nos pays respectifs cette année. Moi, du coup, je suis allée en Algérie pendant un bon mois. J'y suis allée en bateau parce que... Tonton du bled, parce que on est des Arabes jusqu'au bout. Non, là, on prend pas l'avion, on prend le bateau. On va descendre à Marseille, infernal. Un voyage infernal, il faut se le dire. Il faut arrêter de penser que aller au bateau,
au bateau.
Aller au bled au bateau, c'est pas stylé, c'est pas cool. Non, mais parce que j'ai reçu des messages, franchement, sur Instagram, de gens qui me disaient. Est-ce que tu pourrais parler de nos expériences, de ton expérience dans le bateau? Ça a l'air vraiment cool. Enfin, je suis algérien, mais je suis jamais allée au bled en bateau.
Pour de bonnes raisons, d'ailleurs. Pour de bonnes raisons.
Pour de très bonnes raisons, alhamdoulilah.
Si vous n'avez pas mieux que toi, ce qui se passe.
Je te jure. Si vous n'avez pas besoin de prendre votre voiture avec vous, partez en avion, s'il vous plaît. Air Algérie.
Bateau, boycott maintenant.
Air Algérie, c'est tellement le paradis par rapport à la SNCM.
On vous kiffe.
En vrai, je pense que c'est mieux que le port d'Algésie.
Parle
de la douane espagnole.
Du coup, toi, quand tu pars au bled, tu pars comment?
Ça dépend, en avion ou en voiture, bateau du coup.
Ou en pas de bol.
Genre par exemple cet été, je suis parti en avion parce que j'étais, mes parents ils sont au Maroc, donc je les ai rejoints là-bas et eux ils sont remontés avec nous en voiture dans l'autre sens. Et Algeciras, bah c'est pareil, t'attends soleil, pareil, les mecs ils prennent des pauses. Un bateau il doit partir à je sais pas quelle heure, à 15h40, à 16h30 il est encore là, tu sais pas pourquoi, tu peux pas rentrer, mais il y a des gens qui rentrent de l'autre côté.
J'ai fait pire cette année, au retour, le bateau devait partir à midi. Il est parti, on a embarqué à 15h.
Oh. Oh. Non, ça va.
Il est parti à 19h. Oh. Le lendemain, on devait arriver à Marseille à 10h, on est arrivé à Marseille à 19h30.
Oh. Quoi. En fait, c'est des chiffres que si on vous en parle pas, vous pouvez pas les imaginer si vous les avez pas vécu.
La douane marocaine, c'était en grosse famille. Franchement, ils ont souvent la flemme de te contrôler.
Moi, il y a que ma mère et moi.
Ah bah oui, bah voilà.
Et là, le petit privilège.
Moi, je
pense. Camper.
Non, là, c'est une autre famille de mon père qui me sauve parce qu'il était de la gendarmerie royale.
Ah, c'est carré.
Que la corruption. Ah. Enfin, mon oncle était militaire. T'as les plages.
Les plages militaires, c'est quelque chose.
Les plages militaires, les plages où tu n'as pas besoin de mettre un short pour nager. Nesrine, explique-nous les plages privées.
Genre, il faut un pass VIP, c'est un membre de ta famille qui a fait l'armée. Et en gros, il y a des endroits en Algérie, tu peux pas y accéder sans ce pass VIP, tu vois.
Ah ouais.
Mais c'est surréaliste, genre.
La clé de la ville,
ouais, il y a genre des endroits comme ça privatisés. Il y a pas que des plages, hein. Il y a aussi genre des sortes d'hôtels, tu sais, où genre il y a des terrains de jeu. Enfin, en gros, pour vivre une belle vie
des
en Algérie, faut soit être de l'armée, soit être riche.
Ça,
non mais c'est vrai, c'est hyper symptomatique des jeunes. Tu vis toute l'année dans la misère parce que t'es en HLM et tout, et tu galères toute l'année. Et là, t'arrives au bled, ton pouvoir d'achat il est décuplé. Du coup, le bled, ça c'est un peu le paradis parce que voilà, t'avais 3,50 avant. Là, tu passes la frontière, clac, t'es super riche. Du coup, ça, t'as une vision super. Distordu de l'Algérie, ou au moins de tous les bleds où ton pouvoir d'achat est décuplé. Parce qu'évidemment, si tu vas à Miami, c'est pas la même chose.
Déjà, faut avoir les moyens d'aller jusqu'à Miami.
Le bateau à Algeciras.
mais du coup, ouais, ça aide pas à se faire une vision un peu réaliste et de
nos bleds.
Parce que forcément, quand tu peux tout acheter sans avoir de problème, quand on contrôle tes papiers, tu sais qu'on va pas trop te poser de problèmes. T'as pas une vision super réaliste de ce que les gens qui vivent là-bas vivent vraiment.
Kauter.
Mais moi justement c'est l'inverse. Genre bon, on n'est pas issu d'une famille riche déjà au Maroc, et ici bah on arrive à se débrouiller, tu vois. Mais je vis super bien. Déjà bah regardez, j'habite à Paris dans le 12e. Bon, grâce aux aides de l'État, mais
ça c'est un autre débat.
Faut pas le dire.
Mais ce que je veux dire c'est que je vis super bien ici, je peux m'offrir du créateur, etc. Alors que quand je vais au bled, c'est vraiment un retour aux sources et ça me permet de remettre mes pieds sur terre, tu vois.
parce que on vit vraiment, enfin ma famille vit vraiment dans la misère. Nous on a un appartement mais on préfère aller chez la famille, tu vois, normal, on va pas au Maroc pour rester seule. Et ouais, ma tante elle vit seule, genre son mari il a déserté en France bien évidemment. Et quand je vais chez elle, même si sa salle de bain c'est une horreur pour moi, je te jure ça me fait toujours plaisir d'aller la voir parce qu'il y a sa gentillesse, il y a sa bonté, il y a son hospitalité. Et il y a la plage à 2 minutes aussi. Mais en fait, ça me permet, tu vois, pendant toute une année, je suis hyper matérialiste, hyper, pas superficielle, mais...
T'aimes les belles choses, quoi.
Voilà, j'aime les belles choses, j'aime bien vivre. Genre là, j'aurais pas eu cet appart, bah franchement, je sais pas si je serais venue à Paris, tu vois, c'est pour vivre dans un 9 mètres carrés, je sais que toute l'année, j'aurais pas tenu. Et en fait, quand j'arrive au Maroc, j'ai l'impression que mon cerveau se retourne. Ouais, voilà. Et j'ai d'autres valeurs qui renaissent de je ne sais où. Et ouais, du coup, c'est
ça fait du bien, ça fait une piqûre de rappel.
Bien, c'est vrai.
Ouais, moi, un truc totalement différent dont je voulais parler, c'était quand j'étais petite, je sortais beaucoup. beaucoup, ma grand-mère habitait dans une cité, donc en fait toute la journée bah, tous les petits sont dehors et on joue
tu
tous ensemble.
Tu parles du bled là ?
Ouais. Tous les petits sont dehors et on joue tous ensemble toute la journée et on rentre le soir. Et quand j'ai commencé à grandir, quand j'ai commencé à avoir 12-13 ans, j'ai capté que j'étais une fille.
Ouais.
Et que je ne sortirais plus
comme avant,
je ne sortirais plus comme je le voulais, qu'il y avait des endroits qui étaient limite, enfin pas interdit, mais qu'en gros il y avait des endroits, bon si j'allais on donne pas cher de ma peau, tu vois. Et en fait j'ai commencé à aller dans un truc où j'allais en Algérie, je restais enfermée entre quatre murs et ça m'énervait, je détestais y aller. Pendant très longtemps j'ai détesté aller en Algérie, vraiment, genre je faisais des crises et tout parce que je voulais pas y aller du tout. Et un jour on regardait un documentaire avec mon père. Et donc c'est un documentaire que je pense tous les Algériens ont vu et
les Maghrébins.
Voilà, l'Algérie vue du ciel de Yann Arthus Bertrand. Et donc j'ai regardé ce documentaire, je me suis retournée vers mon père et je me suis dit, ça c'est l'Algérie, ça c'est l'Algérie, sérieux. Pourquoi quand moi je pars en Algérie, tout ce que je vois c'est le lustre du salon, la fenêtre et la télécommande de la clim, tu vois. Et en fait, depuis qu'on a vu ce documentaire avec mon père, chaque année, on essaye de se programmer des moments où on part, tu vois. Où on part quelque part, on est parti à Oran, on est parti à Alger. Là, j'aimerais beaucoup profiter de l'hiver pour repartir, pour aller au Sahara, tu vois. Donc c'est vraiment, en fait, c'est ouf parce que ce truc de vraiment kiffer aller au pays, il m'est arrivé hyper tard, tu vois. Et enfin, hyper tard. Non, pas si tard que ça. Ça aurait pu arriver beaucoup plus tard, tu vois. Je pense que pour certaines personnes, c'est même pas encore arrivé. J'ai que 19 ans, tu vois. Ça arrivait il y a une année, 2-3 ans, tu vois. Mais c'est vrai que, en fait, le problème des vacances aussi, c'est qu'elles sont tellement différentes. C'est-à-dire que un jour, j'avais rencontré une fille de mon lycée et j'avais rencontré à Alger, tu vois. Et quand on est parti à Alger, elle m'a emmenée à Hydra. Hydra, c'est genre le quartier. Le quartier où il y a tous les ambassades, c'est le quartier hyper friqué, enfin c'est le 17ème d'Alger, tu vois. Elle m'a emmenée dans... 16e. Ouais, le 16ème, ouais. Merci. Elle m'a emmenée dans un burger où on avait payé 1500 dinars le burger, donc c'est l'équivalent de 10-15 balles, tu vois. Où il y avait que des Français, sa cousine parlait français. J'étais partie avec mon cousin. Mon cousin, enfin c'est un mec d'Alger, mais c'est un rebeu du bled, tu vois, de ouf. Et d'ailleurs, mon père après, elle était hyper en flic, petite combi, petit make-up pour aller manger son petit burger avec sa cousine et sa pote et tout. Et je me suis dit, on vit tellement des vacances différentes, elle et moi. Et très drôle, d'ailleurs, mon père, en fait, quand il est venu nous chercher, mon cousin et moi, il a dit, la viande, elle était halal. Et mon cousin lui a dit, la viande, elle était halal, mais le prix, par contre, il était haram. Voilà, ce truc, c'est que, en fait, c'est un truc tellement complexe, c'est un truc tellement différent, genre on va rester enfermé pendant des jours, ou alors il y en a qui vont partir explorer, il y en a qui vont vivre comme des riches, il y en a qui vont vivre vraiment à la manière locale. C'est donc, je crois que tu voulais réagir à un moment.
Ouais, parce que le reportage donc, que vous avez évoqué, toi Lina et Zied, de Yann Arthus Bertrand, en fait, il m'a fait comprendre que l'Algérie, surtout, c'est le monde de Narnia, genre... sur plein de points, dans le sens où tu peux avoir plein de paysages et des trucs aberrants, genre si je te dis des animaux qui parlent, machin, j'irai pas jusque là, mais des cafards blancs, des cafards blancs en Algérie, genre des gens complètement frappés dans leur tête à cause de l'ennui et des vices et des torts du pays, mais en même temps des trucs trop beaux. J'ai peur de dire une bêtise, je sais que ce que je vais citer c'est dans le Sahara, je suis pas sûr que ce soit en Algérie, mais c'est ce que je dis là est applicable aux trois pays du Maghreb. Les collines qui grondent, les dunes de sable qui grondent.
Ah, qui bougent?
Non, qui grondent. Qui grondent.
C'est-à-dire
il y a une zone dans le Sahara où tu te plantes dessus et t'entends une vibration, un vrombissement dans l'air à cause du vent qui rebondit un peu sur les dunes et fait vibrer tout le sable. Il y a une espèce de son qui s'élève dans l'air. Mais c'est un truc, c'est surnaturel, genre, c'est incroyable. Et c'est... En fait, c'est comme s'il y avait trop de choses au bled pour qu'on puisse tout voir d'un coup. Et dans les vices et les torts que j'ai partiellement évoqués, voilà, il y a le manque d'éducation vite fait dans le pays qui oblige nos sœurs à rester enfermées. Moi, je sais que les vacances au bled, c'est plus des vacances depuis que ma première petite sœur a 15 ans, qu'elle est assez jolie, machin. Mon père et moi, on est des... Wesh, on est
gardien du
corps. Ouais, je suis devenu. Enfin, quand je vais au bled, je suis un pitbull. Genre, vraiment. Même moi, je ne sors plus. Je vais en mission. Genre, je vais en mission garde du corps. Je dois sortir. Au souk, je dois être vigilant partout. Je dois attraper ma sœur sous mon bras pour montrer autour de moi que. Elle est avec moi, le plus drôle c'est quand ça arrête personne. Mais bon, ça après tu parles plus et tu te bagarres, mais ça fait limite partie du charme, frère.
Du coup, c'était pour réagir aussi à ce qu'a dit Sidox par rapport au reportage. Moi, du coup, j'ai vu Le Maroc vu du ciel, du même réalisateur. Et du coup, moi, ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'au final, je connais pas du tout mon pays en fait. Genre, vraiment pas, je le connais pas du tout. Et. Du coup, ça m'a un peu énervée de pas connaître en fait mon pays. Et aussi par rapport du coup à l'harcèlement dont on est victime au bled, bah du coup moi aussi je m'en suis rendu compte un peu plus tôt, vers 9-10 ans déjà, ça avait déjà commencé. Moi,
je me suis rendu compte que j'étais une femme en Algérie, genre
moi pareil. Moi, on m'a déjà crise pour me prostituer plusieurs fois même.
What? Ouais.
Pourtant, j'étais habillée normalement, j'avais genre 12 ans, 13 ans.
Moi, s'il te plaît, je me suis fait caresser les fesses dans une foule, je me retourne, je vois un mec en camis.
Non, mais ouais.
Mais quand on était avec Nesrine à Alger, je me souviens, il y avait un mec qui était passé, qui avait mis sa main dans mes cheveux, du coup, qui m'a arraché les cheveux de nuit.
Ah oui, parce que pause, gros... pour contextualiser, Lina et Nesrine, elles se sont croisées au bled.
On a passé une petite journée ensemble avec Neila, à qui on fait de gros bisous si elle écoute.
Elle écoutera.
Ouais, bien sûr. elle sera même ici peut-être
un jour.
Et donc, ouais, il y a un mec qui m'a arraché les cheveux limite, parce qu'en mode il passait, il disait Charles Kouner, tu vois, genre tes cheveux ils sont beaux, sauf que bon, j'ai les cheveux bouclés. Et Nesrine, il y a un mec qui l'a pincé, genre, enfin bref.
Pincé la cuisse, et c'est pas la première fois, genre, on m'a déjà touché les fesses, mais genre. Claqué tellement fort, mais ça m'a énervé sur le coup, mais après j'ai eu de la peine pour lui parce qu'il avait même pas l'air dans son état normal, tu vois.
Alors là, le mieux, c'était un kémé de 28 ans qui est venu nous voir et qui nous a dit je voudrais une amitié entre parenthèses.
Quoi?
Mais quoi? Ce mec est trop fort.
Mais
voilà, il faut recontextualiser les choses. On est dans des sociétés où les hommes et les femmes ne se parlent pas beaucoup et que la rue, en fait, c'est le seul endroit où ils sont mélangés, tu vois, limite. Et c'est le seul endroit où voilà, il y a ce truc un peu de drague et tout. Enfin, genre moi, je vais raconter un truc de ouf, mais mon oncle, il s'est marié avec sa femme après qu'elle ait ramassé un numéro qu'il a jeté, tu vois. Et maintenant, ils sont mariés, ils ont deux enfants.
Au final, ça marche peut-être.
Ouais, en fait, voilà, ça marche.
Ton oncle, il a jeté un numéro, mais il y en a, ils pensent les fesses des mecs.
Ouais, mais ouais, en fait, quand même... si tu veux, genre, c'est un truc. Bien sûr qu'il y a des trucs, enfin, il y a des comportements qui sont totalement inacceptables. Et de toute façon, d'ailleurs, que tu sois volé, pas volé, il y a.
Ah oui,
c'est une surprise quand même. Les femmes enceintes, maintenant, elles aussi, elles sont harcelées enceintes, genre, tu la vois et tout.
Mais justement, moi, je vois pas comme ça la rue, tu vois, au bled. Enfin, justement, genre, je trouve que la rue, c'est un peu, genre, encore plus, tu vois, qu'en France, c'est genre l'endroit des mecs, tu vois, genre, les mecs, ils vont se poser à la terrasse d'un café. Exactement. Ils sont un peu à moitié dans la rue, genre, une meuf qui passe devant, tu vois, elle fait un peu, c'est un peu le divertissement, en mode,
mais c'est là où je voulais.
Et tout, tu vois ce que je veux dire. Et sur ça, on a besoin de beaucoup d'éducation.
Regarde, c'est pile là-dessus où je voulais réagir. Et on va prendre donc du coup un exemple beaucoup plus proche géographiquement de nous. Une cité où ce qui s'en rapproche n'importe quoi, quand tu vois des zoneurs, ce sont des gens qui se font chier. Ce sont des gens qui s'ennuient et qui...
Non, franchement, il n'y a même pas besoin d'aller en cité, hein. Tu vois même un panneau.
Voilà, ouais. En gros, des zoneurs, ce sont des gens qui s'ennuient. Et le problème de nos pays, dans leur faiblesse d'éducation, c'est que du coup, elles ne donnent pas matière à réfléchir à ces gens.
Ouais.
C'est-à-dire que du coup, ils réfléchissent. Ils réfléchissent pas. Ils ne trouvent pas de but ou d'activité ou d'autres choses. Et... ça crée de l'ennui, et donc l'ennui crée la zone, et la zone crée ses comportements.
Comme il dit Fellag, c'est des hatestes.
Ouais, les hatestes.
Pour ceux qui connaissent pas, Fellag, c'est un humoriste algérien qui avait fait un sketch où il disait qu'en gros, bah, y avait des hommes dans la rue, c'était des hatestes. Et en fait, ça vient du mot arabe hate qui veut dire mur. Donc en fait, littéralement, c'est
teneur de mur.
Voilà, c'est des teneurs de mur.
Les gens, quand ils partent, le mur s'écroule.
Là, on est en train de développer ça parce que c'est flagrant, parce qu'on a la chance de vivre dans un pays où c'est moins fréquent, et parce que ça nous choque, et parce qu'il y a beaucoup de filles autour du micro aujourd'hui. Mais ça reste... Enfin, je veux dire que si ça vous empêchait de vivre, je pense que vous n'y retourneriez juste pas au bled, et que vos parents, ils vous forceraient pas à y aller.
Des droits qu'on accorde aux femmes, c'est par échelle sociale. Les femmes riches, les femmes cultivées surtout... Elles auront plus de légitimité, enfin elles se donneront alors que les femmes et les filles issues d'un milieu plus modeste, bah il y aura toujours la famille déjà pour leur imposer des valeurs patriarcales parce qu'on leur a inculqué ces valeurs comme ça. Il y a aussi un côté avec la religion, tu vois, et ouais, je pense que c'est une question d'éducation aussi.
Non, mais après, je pense que dans les classes sociales, tu vois, pour être plus précis, je pense que... Enfin, genre, moi, genre, je vois un peu les deux, tu vois, avec... parce que du côté de ma mère et du côté de mon père, c'est pas du tout, genre, la même classe sociale quand je rentre au Maroc. Enfin, si je vais chez la famille de mon père ou de ma mère. Et genre, j'ai l'impression que c'est aussi, tu vois, parce que dans les classes sociales les plus basses, tu vois, au Maroc, on vit beaucoup en famille. Genre, énormément, tu vois, il y a la maison familiale...
Et surtout, le fils reste à la maison, même s'il est marié.
Voilà, tu vois, il y a une sorte de un peu que ça fait QG, tu vois, et après il y a les annexes, tu vois. Ouais. Et du coup, en gros, c'est plus facile pour contrôler la vie un peu des gens, tu vois. Ouais. Alors que quand t'es dans une classe plus aisée, genre à 25 ans, bah t'as un boulot, t'achètes ton appart, genre c'est ce que font les gens très aisés au Maroc, tu vois. Et du coup, bah t'es tout de suite plus libre, tu vois. T'as ta voiture, tu fais ce que tu veux, tu sors où tu veux.
Ouais. Pour contrebalancer tout ce qu'on a dit, je vais citer 3-4 classiques de l'Algérie et de mes lointains souvenirs. Le sandwich avec les frites à l'intérieur du pain. Les inventeurs du tacos, on vous a grillé, vous avez piqué ça là-bas.
Ils mettent des tomates dedans.
Ouais, tomates, c'est nouveau. Moi, je connais pain frit.
Ah non, ils mettent des tomates,
c'est n'importe quoi. Okay.
J'ai mangé un tacos à Alger. Eh, hey, au tacos, c'est de la merde. Non, mais pas tacos. Non, parce qu'en fait, ça m'embête de dire tacos. Ouais, franchement, les Mexicains, je suis désolée.
C'est insultant.
C'est horrible. Genre, ce tacos arabe. Du coup, j'ai mangé un tacos arabe qui était plus bon.
Tacos du Levant.
Que celui de au tacos.
Ah ouais.
Non, vous a grillé, vous avez pété la recette. Hein.
Bref,
ok. Et c'est quoi
d'autre? Il y avait quoi d'autre? Les longs trajets, sa grand-mère. Oh là là. Oh là là.
T'as un désert entre Saint-Gilles. Oh mon dieu. Les longs trajets, mais pas dans, enfin pas dans le nombre de places réglementaires de la voiture.
Bah
cette
oui.
année, j'ai fait Constantine à Naba à 15 dans deux voitures.
Et bah du coup, à propos de ça, une grosse dédicace aux Algériens qui, comme moi, ont un parent d'origine de l'Est et un parent d'origine de l'Ouest qui apprécient maintenant l'existence de la fameuse autoroute. Et donc voilà, j'ai abordé 2-3 petits classiques, ça faisait plaisir.
Nous, on a eu la chance d'aller au bled. Y en a qui n'ont jamais eu cette chance, il y en a qui n'y sont jamais allés, il y en a qui n'y sont plus retournés depuis très longtemps pour raisons X ou Y. Aujourd'hui, on a Théophile et Sidox qui sont pas retournés dans leur bled depuis combien de temps?
Moi, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant.
Ouais, pareil, j'avais 9 ans quand j'y suis allé la première fois. Et du coup, la seule et unique fois.
Ok.
Ouais.
Quelle raison?
Alors, l'histoire de ma famille est assez compliquée en termes. Voilà, c'est une histoire compliquée.
Donc là, c'est Théophile.
Voilà, c'est Théophile. Non, mais c'est normal. Mon père est parti d'Algérie en 80, dans les années 80. Donc, 80, hein, FIS. Donc, quand les gens se faisaient égorger chez eux. Donc, c'était pas ouf. Du coup, ses parents l'ont un peu catapulté en France chez sa grand-mère, qui faisait femme de ménage chez les grands de ce monde. Et du coup, c'est un peu le self-made man immigré qui s'est un peu fait têche de son pays par ses parents, à la fois pour le protéger et à la fois parce qu'il avait que des sœurs, du coup, c'était un peu l'homme de la famille, enfin le garçon. Du coup, il fallait bien qu'il aille devenir riche et successful en France. Du coup, voilà. Je suis allé une fois, j'avais 9 ans à peu près. C'était assez bizarre parce que du coup je découvrais plein de choses pour la première fois et j'avais aussi une attitude très très jeune français qui part dans un pays du tiers monde et qui doit un peu désapprendre le fait d'être un jeune français arrogant chez des dans un pays où c'est pas du tout la même culture, où c'est pas les mêmes façons de vivre. Il y avait une PS1, j'étais en mode waouh, la relique, tout le monde était waouh, la chance. Donc voilà, en plus mon grand-père était fonctionnaire post-révolution, du coup beaucoup de privilèges. J'ai appris plus tard que mon père était dans un lycée français, donc c'était un gros privilège aussi. Et du coup voilà, j'ai beaucoup désappris a posteriori tous les vieux réflexes de jeune français qui va au bled.
Personnellement, je suis allé deux fois en Algérie, une fois quand j'avais 2 ans, une fois quand j'avais pareil un peu moins de 9 ans. J'y suis pas retourné depuis parce que, arrivé mes 16 ans, j'ai reçu la fameuse lettre du consulat qui disait que j'étais convocable par l'armée. Et ça fait maintenant 3 ans que je suis dans leur procédure à la con pour sécher le service militaire. Parce que je me vois pas faire 18 mois dans le désert. Parce que je suis. C'est un an et demi de formation. L'Algérie c'est vraiment c'est un mythe, c'est une grande utopie pour moi. Au début c'était un manque et ensuite c'est devenu vraiment une légende. Pour moi c'est l'Algérie c'est le pays de révolutionnaires, c'est le pays de mon grand-père qui a une histoire de dingue, qui est un grand boxeur. C'est un pays de légende. Et en fait, j'ai compris mon ressentiment devant l'Algérie quand j'ai regardé le film Black Panther, où je me suis reconnu à fond dans l'anti-héros du film, le personnage de Killmonger, où en fait, quand à la fin du film, on comprend que c'est un mec qui, pour des raisons politiques, comme moi, on lui a tout simplement interdit de retourner dans son pays, et ça a tordu son développement personnel, et il a décidé de retourner dans son pays et de reprendre son dû. Et clairement, ça fait partie de ma vie. J'ai envie de me construire, d'être une grande personne, d'aller en Algérie, d'investir en Algérie, de reprendre cette partie de mon pays qui me revient, quoi, et de me reconstruire complètement avec donc ma partie française que j'ai aujourd'hui très bien comprise, très bien appréhendée, et ma partie algérienne qui me manque totalement, mais que en fait j'ai des traits de mon attitude qui s'expliquent pas et qui s'expliquent pas ailleurs qu'en Algérie. Trop de traits de ma personnalité viennent de là-bas, et le fait de ne pas pouvoir y retourner, pas pouvoir me comprendre, pas pouvoir connaître les légendes de ma famille, ça me manque de dingue, quoi. Et donc c'est l'objectif, d'y retourner.
Ziad.
Moi je voulais juste dire un truc par rapport à vous deux, tu vois, qui n'êtes pas allés depuis longtemps et qui ont une vision un peu fantasmée, tu vois. Je trouve que c'est un truc qu'on a un peu tous quand on n'y vit pas, tu vois. Comme tu disais tout à l'heure, tu vois, tu disais, je me suis rendu compte que je connais rien de mon pays et tout, tu vois. Enfin, moi aussi, je m'en suis rendu compte, mais un Marocain qui vit au Maroc, il s'en fout de pas que tu connais, tu vois, il connaît autour de chez lui, voilà, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, genre, nous, comme on est un peu en mode, enfin, on est entre deux trucs, on essaye de creuser un peu de plus loin, tu vois, pour trouver des choses qui nous parlent, et comprendre, tu vois, aussi, parce qu'on n'a pas eu du tout une éducation en France sur ces choses là et c'était juste pour souligner que je pense que c'est un truc qu'on a pas mal tous mais que enfin
qui se creuse avec
qui se voit plus sur vous, tu vois, la vision fantasmée du bled un peu
exactement. On a tous en réalité une vision un peu fantasmée, une vision un peu orientaliste aussi,
ouais, du oui, bled, bien sûr.
Parce que on n'y vit pas, on vient de là-bas, enfin nos racines viennent de là-bas, mais on n'est pas forcément
On a passé notre adolescence en Occident, tu vois.
On n'est jamais allé en cours au bled, on n'a jamais habité vraiment au bled, on n'a jamais eu nos amis vraiment au bled et tout. Et oui, j'avais lu un truc d'une fille qui disait qu'elle était retournée dans son pays 10 ans après, et elle a commencé. En fait, tout le monde mangeait le couscous à la cuillère et elle le mangeait à la main, tu vois.
Ce genre de truc.
Et donc voilà,
ça, c'est une technique, ça. C'est archi dur de faire.
Moi, c'est trop dur.
Je l'ai fait, j'en ai jamais. Sidox.
Clairement, je sais que j'ai un oncle qui a. En fait, à la suite des soucis, donc des conflits d'indépendance en Algérie, s'est retrouvé. Enfin, son père est parti en France, mon oncle est né en France, et à 18 ans, il a pris son sac à dos, vu qu'il n'avait pas du tout la nationalité algérienne, il n'était pas concerné par ces bêtises de service militaire. Il a pris son sac à dos, il a pris un billet pour une colonie de vacances en Algérie. Quand il m'a dit ça, j'ai beaucoup ri. Et dès qu'il est arrivé sur le sol algérien, en fait, il a faussé compagnie à cette colonie de vacances.
Non.
Et il est parti se balader dans les montagnes en Kabylie.
Oh,
et il est parti se balader. Genre, il est parti dans un village. Il a entendu parler d'un village. Il a entendu parler d'une grand-mère qu'il connaissait pas. Il s'est pointé, il a toqué à la porte. Il a dit.
Eh, mais ça, c'est mon frère, ça.
Et bah, c'est clairement aussi l'objectif de ma vie. C'était pour terminer voilà, sur le sujet.
Une deuxième petite pause. Pour passer une chanson que j'affectionne tout particulièrement, que je connais par cœur depuis très longtemps, qui a le même âge que moi en plus. Une chanson qui est interprétée par notre tonton préféré.
Rimka.
Une chanson qui n'a pas pris une ride depuis 1999.
Pour tous les musulmans.
C'est Tonton du Bled de Rimka sur la télé.
Dans la voiture, j'ai ouais, Bilal, il faut voir. Monte, Bilal, elle mouille. Hé, Atmen. Allez, monte. Allez, on y va. Hé. Hey. Ami Karim, tonton du bled.
Tonton du bled.
Pour tous les Miss Mourt, bled du bledi. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors, dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors, dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Sur la base break chargée. Allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot. Voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein de gasoil et de gazous pour pas flancher. Bilal, va pisser. Le temps que je fasse mon petit marché. Direction le port, toujours le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bateau, je sais c'est pas un cadeau. Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Vito. À Béjaïa City, du haut de ma montagne. Avant de rentrer Fedar, je fais un petit détour par Warlan. Vu qu'à Paris j'ai dévalisé tout Tati. Je vais rassasier tout le village, même les plus petits. Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés. Et des jouets en pagaille pour les nouveaux nés. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je suis sur la plage à Boulemat avec mon zinc et son derbouka. Dans la main, un verre de Selecto, imitation coca. Une couche de Zizitoun sur le corps et sur les bras. Avec mon poste sur un fond de Zerwania. On parle de tout et de rien. Des Nike Air au Visa, de la traversée du désert au beaucoup couscous de Yema. Et mon cousin me dit
Karim, kiff le zetla.
Il était tellement bon que j'ai jeté mon cirage en rat. Avec deux trois blédards, on tape la discussion. Mahmoud peut pas s'empêcher de dire que je suis dans la chanson. L'un d'eux me dit
moi je t'ai pas vu cette télévision.
Et l'autre me demande
Sahat Alak Michael Jackson.
Il parle trop vite et en argot de blédard. Je sais ce qu'il ferait pour une poignée de dinar, connard. Le soleil se couche et tout le monde rentre chez soi. C'est l'heure du repas et Dieu la taille. Pour d'autres la chicha. J'ai passé un bon mois dans ce qu'on appelle le tiers monde. Et si j'avais assez d'oseille, je ramènerais tout le monde. Mais je peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment. Des 10 morceaux ont disparu aux enfants et aux mamans. Et je suis rentré à la cité,
Arbeya.
Content de revoir mes potos
et ma chebba.
Pendant deux semaines j'ai mangé
que de la chorba.
J'irai finir mes jours là-bas. Inch'Allah, je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry.
J'irai finir mes jours là-bas. S'il te plaît, vas-y, laisse-moi ramener mon scooter. Bon, dans ce cas-là, je ramène mon 3/4 alors. Bon, alors je prends tous mes CD, toutes mes cassettes. Bon, je prends rien alors. Bon, je me fais la boule au moins avant de partir. Je ramène la PlayStation. Bon, la télé du salon au moins. Tu crois que je vais aller là-bas pour me marier ou quoi?
S'achève bientôt, on va finir avec des recommandations de chacun chacune, des choses qu'on a appréciées et qu'on aimerait vous partager aujourd'hui. Donc je vais commencer. Moi, ma recommandation, c'est un podcast, une émission audio qui s'appelle Backs to Congo, réalisée par une amie à moi qui s'appelle Christelle. Il y a environ une dizaine d'épisodes et en fait elle est retournée cet été dans son pays d'origine, le Congo. Elle est partie toute seule et elle a beaucoup voyagé, elle a rencontré des membres de sa famille, elle a rencontré des amis et elle a enregistré des conversations, des moments partagés avec toutes les personnes qui ont marqué son voyage. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est que c'est quelque chose, enfin, c'est une démarche qui était très personnelle et en même temps, c'est quelque chose de très authentique et en fait, ça dépasse encore le côté documentaire. Ça, c'est vraiment comme une sorte de journal de bord de son voyage qu'on lit. Et voilà, tous les épisodes sont dispo sur SoundCloud. Et de toute façon, on mettra tous les liens de tout ce dont on parlera, soit sur Instagram, soit dans la description. Donc voilà. Sidox.
Pour ma recommandation, j'avais prévu une recommandation, mais là, au vu de notre discussion, je vais changer. Je vous recommande très 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 fortement tous les livres de l'auteur que je vais citer, mais Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra. Mais c'est parfait, genre, et donc voilà, je prends un exemple beaucoup sur mon vécu, un Algérien qui par des raisons X ou Y se retrouve dans un milieu beaucoup plus français et qui sent le manque de son Algérie, le manque de ses racines dans sa personne et qui se retrouve à flirter un peu avec les deux côtés dans un contexte plus que tendu. C'est poignant, c'est parfaitement écrit, l'écrivain il maîtrise trop le sujet, c'est magnifique. Bref, je vous le recommande à la mort.
Nesrine,
l'Instagram de Confused Arab, c'est un Algérien, enfin c'est un Français d'origine algérienne qui parle de son expérience en tant qu'arabe, en tant qu'Africain, en tant que gars de la diaspora. C'est méga intéressant. Il y a, genre, d'une part, son fil est magnifique, et d'autre part, genre, toutes ses stories sont méga, méga, méga informatives.
Ouais, on apprend beaucoup de choses. Je crois qu'il habite à Dubaï, en fait.
Ouais, il habite à Dubaï maintenant, et du coup, il est grave entouré de différents Arabes, ouais. Et il voit, genre, sa différence.
Il est vraiment dans la scène artistique de Dubaï, en fait. C'est hyper intéressant à voir. Kauter ?
Moi, je vous recommande l'Insta de Salarab, donc S-A-L-A-R-T-A-B-E. Donc pour le moment, vous y verrez que des t-shirts, mais il y a du gros qui s'annonce. J'en dis pas plus parce que sinon Yasmine elle va me baiser. Mais pour le moment, en fait, vous pourrez y voir des t-shirts avec des références au Maghreb. Et c'est la créatrice Bicologiste sur Insta, qui est d'origine libano-algérienne et qui est quand même assez, on va pas dire activiste, mais qui est engagé quand même pour mettre en valeur donc sa culture maghrébine et plus généralement arabe. Et ouais, non, du lourd s'annonce. Mais juste à l'essuie parce que le délire est vraiment propre à sa personne et il est super intéressant.
Ziad.
Moi, ça va être un podcast aussi, comme Lina. Et c'est un podcast sur Arte Radio qui s'appelle Hendrix à Essaouira. Du coup, en fait, moi, ça, je suis tombé dessus par hasard, en fait, en tapant, je crois, Maroc sur Arte Radio, ou un truc comme ça. Et en fait, ça parle d'une période que moi, je connaissais pas du tout, en fait, des Samura, en fait, qui était les années 70, un peu la période hippie. Et ça parle de la rencontre, en fait, du coup, de Jimi Hendrix avec Paco du groupe Nassel Riwal, en fait, qui est un groupe du Hey Hassani à Casablanca, donc un quartier assez populaire de Casa. Et en fait, c'est un groupe que mon père adore, en fait. C'était genre les stars de sa génération, quoi. Et qui m'a énormément bercé dans la voiture, machin. Je détestais, on s'embrouillait quand il mettait ça, mais Mais ça m'a marqué, et c'est très intéressant. Donc je vous invite à aller voir ce podcast. Hendrix et Saouira.
Amel.
Mais c'est Amel ou Amal?
C'est Amel, mais c'est écrit Amal.
Okay. Donc, toi aussi, t'aimes les... Hein,
écoute-moi bien Kauter, là.
Mais moi, ça s'écrit Kauter, ça se prononce Kauter.
Bah, Amel. Non, c'est Amal, mais c'est Amel, en fait. Voilà, c'est tout. Et du coup, moi, je recommande un compte Instagram aussi, V-FNS. Et en fait, elle est très dans le développement personnel. Et comme c'était vraiment le sujet de cette année pour moi, en fait, j'ai vraiment travaillé sur moi. Et du coup, c'est un des comptes que je suivais beaucoup. Et en fait, ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle fait aussi des liens avec du coup le Coran et la religion musulmane. Et du coup, ça me parle encore plus. Et peut-être ça parlera aux musulmans auditeurs, du coup. Et voilà, c'est ça ma recommandation.
Alors moi, ma recommandation, c'est un très bel article de Nadia Daham sur Slate qui s'appelle « Je sais pourquoi je ne pige pas un mot d'arabe, qui est pourtant ma langue maternelle », et dans lequel elle raconte comment elle a désappris l'arabe avec tout le stigma qu'il y a, surtout post 11 septembre, autour de la langue arabe, autour du terrorisme d'origine arabe.
Et elle a quel âge?
Je ne sais pas du tout.
Je pense que c'est une trentenaire.
Ouais, c'est une trentenaire. Je vais totalement zapper son âge. Mais c'est pas notre génération, c'est un peu plus vieille du coup.
D'accord.
Et du coup, là, elle se retrouve dans une position où il y a des collègues à elle qui sont français, qui apprennent l'arabe dans les cours du soir, parce que ça aide leur carrière, parce que c'est important quand tu interroges les populations arabophones. Et voilà, comment est-ce qu'elle a désappris l'arabe systématiquement, alors qu'avant elle le parlait de façon extrêmement courante, et maintenant où elle ne pige plus un mot quand elle va voir la famille au Maroc. Il me semble.
Parce que Darija est arabe littéraire.
Elle parle de l'arabe du dialecte. Et d'ailleurs, et c'est pas sans me rappeler une prof d'histoire que j'avais au lycée qui était assez woke pour une franco-française et qui disait à tous les maghrébins de la classe qu'ils avaient une chance phénoménale de savoir l'arabe, qu'il soit l'arabe maghrébin ou l'arabe littéraire, parce que si tu vas à Dubaï, à Oman, aux Émirats Arabes Unis, bon, outre le fait d'être considéré comme l'agitant du monde arabe, tu peux t'exprimer, tu peux nouer des relations commerciales, et t'es bilingue, même si tu parles pas l'anglais de la BBC ou de New York.
Mais tu sais qu'ils ne comprennent pas,
Si t'écris l'arabe littéraire...
Ah oui, oui, mais la...
Mais la vérité, mais oui, bien sûr.
Mais ça, on en parlera dans un autre épisode.
Parce que Kauter va nous étrangler si on ne lui rend pas son appart.
La Teille est un podcast produit et réalisé par Lina Malandro avec Ziad, Kauter, Sidox, Amel, Nesrine et Théophile. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre l'équipe de La Teille sur Instagram @lateillepodcast et vous abonner sur SoundCloud. Le thé est servi. Le thé a refroidi. Merci à tous d'avoir écouté. On se retrouve le mois prochain, Inch'Allah.